des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Mon invité aujourd'hui est Natasha Rublov, architecte, performeuse, irrémédiablement citadine. Elle va dérouler pour nous le fil de sa recherche sur le lien entre la ville et le corps, entre le corps et les objets, dévoiler son rapport aux matériaux, la nécessité de déranger, de questionner, d'explorer ses propres résistances intimes. Elle va évoquer ses performances et collaborations qui interrogent l'autorité de la ville sur nos corps, les effets des discours patriarcaux, nos rapports aux objets qui déclenchent la soumission, le conflit et l'enfermement. Ses performances, qui révèlent par des actions où son corps, objet et outil à la fois, tente de trouver les ressorts qui définissent l'individu et le transforment, révèlent ce qu'elle perçoit comme séparation entre langage et expression du corps. Tout cela, comme à l'accoutumée, dans deux entretiens rythmés par des lectures de ses textes, par des descriptions de performances, par de la musique. Bonjour Natasha, je suis très heureuse de ta présence qui me permet une incursion dans ton travail. Nous allons prendre des chemins de traverse, sans suivre nécessairement une chronologie, mais plutôt une errance avec ton corps comme guide dans la généalogie de ta recherche, à la rencontre de tes intentions, de ta pensée. J'aimerais commencer par un extrait d'un article de Danilo Martuselli, Michel Foucault et les impasses de l'ordre social, article paru dans Sociologie et Société aux Presses de l'Université de Montréal, extrait qui s'ouvre avec une citation de Surveiller et punir. Notre société n'est pas celle du spectacle, mais de la surveillance. Derrière la grande abstraction de l'échange, se poursuit le dressage minutieux et concret des forces utiles. Les circuits de la communication sont les supports d'un cumul et d'une centralisation du savoir. Le jeu des signes définit les ancrages du pouvoir. La belle totalité de l'individu n'est pas amputée, réprimée, altérée par notre ordre social, mais l'individu y est soigneusement fabriqué, selon toute une tactique de force et de corps. Cette conception du pouvoir trouve son expression maximale du côté des figures de l'assujettissement. Pour Foucault, l'extension de ces disciplines à la maîtrise du corps répond à un ensemble de technologies de pouvoir et d'orthopédie de l'âme, qui parviennent à annuler, au moins dans de longues phrases de son œuvre, toute esquisse d'autonomie du sujet. C'est l'imposition sur le corps, ou plutôt la constitution des corps par les pratiques de pouvoir, en l'absence de tout consensus, qui est pour lui, en dernière analyse, le véritable objet de la réflexion. Le sujet n'est qu'un noyau élémentaire, un atome primitif, un corps multiple et inerte sur lequel viendrait s'inscrire le pouvoir. Pour Foucault, le corps est le désir, et donc l'individu en tant que sujet, sont un effet du pouvoir. C'est dire jusqu'à quel point les capacités psychiques des individus sont réduites, ou plutôt susceptibles d'être manipulées et dressées, à travers des techniques opérant sur leur corps, sans qu'il n'ait pourtant une quelconque matérialité, en dehors des effets que le pouvoir produit en lui et sur lui. Le sujet est le résultat de l'ensemble des douceurs insidieuses, des méchancetés peu avouables, des petites ruses, des procédés calculés, des techniques, des sciences, en fin de compte, qui permettent la fabrication de l'individu disciplinaire. Le sujet est une conséquence des pratiques d'examen, de confession et de mesure qui produisent l'exigence des sujets modernes. Le sujet est une réalité fabriquée par une technologie spécifique de pouvoir. Natasha, les politiques urbaines d'une société capitaliste, socialiste ou dictature ont toutes une vocation coercitive, de contrôle, d'enfermement, de production, de soumission. L'intime se voit substitué par le privé. Elle déplace et éloigne les individus en marge, divise et délimite l'espace, déplace les marginaux, crée des espaces fumeurs, le rend ou souhaite tout au moins de le rendre presque clinique. S'y rajoute évidemment la dimension marchande avec les affiches, les publicités, l'agression et la sollicitation du regard, du désir, elle est permanente. Qu'y a-t-il à faire? À ne pas faire? Désobéir? Laisser faire et contourner? Comment dire non?
Alors, Tout d'abord, merci Fabiola de m'inviter, échanger en fait. C'est toujours un plaisir d'aller s'introduire dans ta pensée en fait, dans la manière dont tu vois le monde. Et c'est une description, on se dit comment s'en sortir quoi après tout ça, comment faire quoi. Et enfin, moi, j'ai trouvé quelque chose, c'est le corps, en fait, qui était peut-être le lieu en fait, de ces conflits et peut-être le lieu aussi de pouvoir résoudre quelque chose sans le résoudre vraiment, en fait. Poser des questions, en fait. Pour moi, c'est ma manière de pouvoir s'en sortir, d'interroger, en fait, de pas silencier ces rapports conflictuels et ces dominations qu'on imprime sur le corps.
Donc tu essaies de t'en sortir encore et par le corps.
Encore et par le corps, oui. Encore et toujours.
La performance avec le théâtre est le seul des arts où le corps se voit non pas représenté mais présent physiquement. Tu as commencé par la vidéo. La performance était filmée. Et après, tu as choisi de te présenter encore. Tu as dit pourquoi le corps, pour toi, c'est le médium par excellence qui te permet de silencier, tu disais.
De pas silencier.
Mais que fait-elle au corps, la performance? Qu'est-ce qu'elle te permet? Comment tu la vis? Elle te transforme?
Alors, qu'est-ce qu'elle me fait au corps? En fait, pour moi, c'est la manière de montrer que le corps est à la fois il y a un sujet et il y a un objet, en fait. Et la performance peut, par la présence, on peut en faire un objet et on peut en faire un sujet qui transforme. Et ce rapport, parce que si je vais décrire les performances que je fais, c'est des actions. J'ai commencé comme ça. C'est des actions où j'applique une matière, un scotch ou des stickers fluo, une matière sur laquelle, en fait, on me voit l'appliquer. C'est-à-dire qu'on voit toute cette temporalité. Et après, comme si le corps se dissipait, n'existait plus, mais devenait un objet. Et puis après, j'enlève cette matière. Ouais. Du coup, là, on voit ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voit, parce que c'est très difficile de raconter, parce que c'est très visuel, et que en fait,
il y a une dimension esthétique aussi.
Oui, c'est ça. On peut y voir des monstres, on peut y voir une lutte, on peut voir différentes choses, et en fait ça vient, c'est comme si ça percutait l'émotion de celui qui va regarder, en fait, et cette transformation en fait il y a toujours quand même quelque chose qui se résout puisque après la matière est enlevée. Donc
d'une manière, tu rends le corps, d'abord tu le couvres, tu le rends invisible. Et au moment où tu décolles la matière, le matériau que tu as posé dessus, il redevient apparent et il devient plus sujet, et ou tout au moins un espace où il y a les conflits, où il y a la lutte, tu dis.
En tout cas, il y a l'histoire.
Il y a l'histoire.
Qui est passée. Et donc, le corps devient empreint de ça, en fait, je pense. Enfin,
c'est ce que tu essayes. Tu es architecte. Est-ce qu'il y a une dimension... qu'est-ce que de l'architecture? Il y a quelque chose de l'architecture qui s'insinue dans ta pratique de performeuse? Et aussi, quelque chose de ta pratique de performance dans ton métier d'architecte, est-ce que tu peux la faire introduire ou est-ce qu'elle s'interpénètre à des moments où...
Alors, je pense que l'architecture, c'est comme si j'avais été formatée par mes études d'architecture et que je me suis intéressée beaucoup à la ville. Et en parallèle à mes études, j'ai travaillé avec un groupe où on questionnait la ville et on y introduisait des installations, on faisait du spectacle non déclaré dans la ville, qui interrogeait donc pour moi, je pense que, pas le métier, mais l'architecture m'a amené à questionner. Parce que dans la ville, il y a les pouvoirs qui opèrent. Et en fait, c'est peut-être par l'architecture que je me suis intéressée au pouvoir exercé, en fait, sur les habitants, ou alors être le pouvoir qu'exerce. Enfin, jouer des rôles aussi sur la fabrication de l'imaginaire urbain.
Pour toi, la condition urbaine, c'est la condition humaine. Tu es citadine. Quel est le sens de la ville ?
Alors, le sens, je ne sais pas s'il y a un sens, c'est multisens en fait. C'est à la fois le lieu de l'imaginaire, de toutes les utopies, de la spéculation, mais aussi c'est le lieu des codes, des normes et de la coercition. Je pense que c'est insensé ou il y a des multiples sens. C'est la ville, c'est le lieu de multiples imaginaires, de toutes les utopies, de la spéculation imaginaire mais aussi financière. C'est le lieu qui, dans les sociétés occidentales, a été et le terrain de ces multiples imaginaires, mais aussi c'est un lieu où de codes extrêmes et d'empêchement, de cloisonnement. Donc, la condition urbaine, c'est celle-là pour l'individu et c'est peut-être dans un déroulement en fait, de vie que je pourrais dire que je me suis intéressée à la condition urbaine avec le groupe en collectif et à un moment donné, je me suis interrogée dans tout ça la condition humaine, donc de l'individu dans la cité, quoi. Je suis citadine et donc je parle à partir de mon corps.
Oui, et ton corps, il est dans la ville.
Ouais.
Tu pourrais parler de ton travail, peut-être donner quelques exemples de ton travail avec ici même le collectif avec lequel tu as travaillé pendant de 1995 à 2012. Ça fait 17 ans, oui. Toi, tu faisais tes études d'architecture ou tu étais déjà architecte?
Non, j'ai commencé, enfin le collectif s'est monté en parallèle de mes études d'architecture. Il y avait un universitaire, on va dire, d'esthétique de l'art. Il y avait des designers, des artisans d'art, des écoles. De métiers d'art. Ce qui nous intéressait, il y avait un peu deux versants, on va dire, le versant enchanteur et le versant un peu noir, on va dire, dark.
Perturbateur
et aussi prenant les traits, prenant les traits des méchants, on va dire, s'il y a un méchant. Mais une de notre première intervention qui vient dérouler les mécanismes de l'aménagement en espace public, ça a été en fait l'agence opaque. On prenait les traits d'une agence telle l'agence Deco qui fabrique des mobiliers urbains et on proposait dans l'espace de la ville sur 300 mètres d'une rue, des mobiliers. On les installait, on faisait comme une opération de city marketing autour de ces mobiliers urbains dont le principe était le recyclage et d'anciens, de rebuts de mobilier et on transformait dans d'autres fonctionnalités comme par exemple une cabine téléphonique. À l'heure du portable qui n'est plus utile, on l'a transformé en cabine de douche. Puis il y avait des bancs publics qui étaient des bancs clic-clac et qui permettaient de s'allonger. Mais à partir de ces mobiliers, on racontait une histoire par exemple pour ce banc clic-clac qui était... La journée, on pouvait s'allonger, mais le soir, c'était fermé et on sécurisait et il n'y avait plus
accès
à sa fonction.
Fonction.
Et donc le mobilier plutôt sympa, en fait, se transformait en quelque chose de moins sympathique, un peu...
Et frustrant en plus.
Oui, et tout ça était basé en fait sur une observation et aussi les cahiers des charges sur les mobiliers urbains, qui était de ne pas rester plus de 10 minutes sur les mobiliers ou des contraintes d'empêchement. Et donc, ces mobiliers, en fait, c'était comme une surenchère dans l'espace, c'est 300 mètres. Et finalement, il n'y avait plus d'espace de liberté, quoi. Toutes les fonctionnalités étaient... on pouvait faire du sport.
Tout était plein. On remplissait l'espace.
Oui, quasiment. Enfin, c'est, oui. On pouvait quand même circuler, mais c'était le seul truc qu'on pouvait faire. Ça se passait comme ça pendant 10 jours, on faisait cette opération, et donc c'était s'introduire dans le quotidien des gens, et il y avait des sensibilisateurs qui expliquaient l'usage de tous ces mobiliers. Et c'était une manière aussi d'imaginer et de montrer en fait ce qui est à l'œuvre dans l'espace public, c'est-à-dire... la parcellisation de l'espace public, la fonctionnalisation de tout doit servir. Il n'y a pas d'espace de liberté. Et une manière aussi, l'introduction du privé, quoi, de l'intérêt privé, qui avec les publicités, enfin, il y avait aussi des panneaux publicitaires. En fait, tout était... cette idéologie de...
assujettissement.
Ouais, et de la consommation, on va dire. Ces discours libéraux qui étaient soi-disant qui répondaient à des besoins finalement étaient contre la liberté des personnes, quoi.
On va parler de la nécessité qui a surgi de te séparer du collectif, de te détacher, même si tu as continué à travailler encore avec eux. Mais j'aurais voulu que tu nous parles du travail, de la manière dont le travail de Gordon Matta-Clark, l'architecte américain avec des origines chiliennes, je crois, la mère, je crois qu'elle était chilienne, parce qu'il... Il y a quelque chose dans sa réflexion qui résonne avec la tienne.
Oui, en fait, je faisais mes études d'architecture en parallèle de ce travail que je faisais avec ici même. Enfin, les réflexions, la manière dont il, avec son corps, il déconstruisait le bâti de l'urbain et la manière dont il décloisonnait, enfin, justement, il décloisonnait et comment la critique de l'espace et de l'espace construit, des politiques urbaines, comment on pouvait critiquer ce système de la fabrication de la ville.
Et, c'est une sorte de mise à nu du bâtiment. Avec... Oui. Et en même temps, cela permettait aussi de voir une histoire, de voir l'histoire de ceux qui avaient habité au fil du temps. Et c'était dans des quartiers plutôt défavorisés, des constructions qui étaient abandonnées, qui devaient être détruites.
Oui.
Il me semble.
Oui, c'était peut-être le lieu de la liberté, puisque c'était des lieux des délaissés, des lieux abandonnés, et en même temps le lieu chargé d'histoire de cette fabrication. Et en fait, c'est à la fois, enfin, avec le collectif, ce lien avec la critique de l'urbain, des discours et de la manière dont on peut intervenir nous-mêmes, enfin non pas faire écrire pétitions ou des, mais faire une proposition, introduire un imaginaire avec ça. Et c'est peut-être ça qui nous intéressait en fait, de critiquer et en même temps de proposer de réfléchir ensemble. Et après, moi, je pense que ce qui m'a aussi, ce qui me fascine, c'est cette manière de se mettre en corps, enfin, en action avec son corps.
Et en danger, et, presque.
Oui, oui, en danger, mettre en danger par ces déconstructions et cette mise à nu de ces histoires, de cette histoire.
Pour revenir au collectif, je disais en 2012, tu as ressenti la nécessité, donc après 17 ans, de te détacher et de construire un travail plus intime peut-être. Tu as gagné quelque chose en te détachant du collectif? Perdu aussi peut-être quelque chose?
Peut-être une certaine énergie, mais j'ai gagné, je pense, dans... Enfin, la fidélité que je peux... Enfin, en tout cas, dans l'honnêteté par rapport à moi, en fait, qui me regarde. Je pense que, aussi, au milieu du brouhaha, j'avais besoin aussi de retourner à quelque chose de plus intime. Et dans la ville, comment s'exprime l'intimité ? Et ça, il est vrai que c'était pas facile en collectif d'être dans une sensibilité, en fait. On grossissait plutôt les traits que d'être
dans la
finesse. Et peut-être, je crois que j'avais plus envie d'être d'abord dans le non-discours, en fait, dans ce qui est pas... Parce que on travaillait beaucoup sur les discours qui étaient à l'œuvre dans la ville, dans la société. Et en fait, j'ai d'abord essayé de plus faire de discours et de faire, en fait, d'être dans quelque chose qui apparaît et dans la présence, en fait. Je crois que c'est peut-être ça que j'ai gagné, c'est la présence.
Tu es femme, tu te reconnais comme telle. Le féminisme n'est pourtant pas une revendication. Tu dis « c'est l'individu qui m'intéresse ». Pourtant, le titre de certains de tes performances comme « Femme résonance »,« Femme effacée »,« Femme étalon », »,« Slim burqa coupe sur modèle »,« Sale », le livre de Nelly Arcan, « Burqa de chair »,« Putain », t'ont interpellé, le livre de Virginie Despentes, tu t'y reconnais. Est-ce peut-être l'idée que si l'individu se transforme, cela amène la fin du patriarcat, par là même, il n'y a plus besoin de féminisme, tout se règle. Ou alors, c'est autre chose.
Alors, je ne sais pas si je pourrais amener si je veux amener une résolution des rapports conflictuels, enfin des rapports de force entre la femme et l'homme et entre, il y a plusieurs niveaux, mais si on parle de mon travail, c'est entre, je ne crois pas que je donne une solution du vivre ensemble, mais plutôt un questionnement sur interroger nos conflits internes et essayer de pas non plus se bercer dans une illusion de liberté ou de en fait c'est enlever tous les discours et essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière mais bon après c'est
pas te être enfermé dans un discours.
Voilà.
Ni être récupéré par un discours.
Non plus, en fait. C'est exprimer je sais pas comment dire.
C'est déjà très beau ce que tu as dit. T'enlèves tout et c'est là que l'individu sort quand tu enlèves les discours qui sont derrière.
Non, mais je pense que c'est plutôt sa propre responsabilité individuelle, mais c'est pas non plus, ne soyons pas naïfs, on fait partie aussi d'une société, donc il y a aussi le système qui est derrière, mais si on a la possibilité de s'interroger, parce que c'est pas toujours possible, c'est mettre en cause toutes les certitudes, en fait.
Tu avais dit aussi... Je suis une personne sociale, les rapports de domination, je les vois, je lis beaucoup sur le sujet, je m'adresse aussi aux gens, mais je ne suis pas chercheuse, ce n'est pas scientifique, je n'ai pas une recherche autour qui donnera un discours qui pourrait vraiment intéresser. Donc tu te concentres plutôt sur les émotions, sur l'inconscient.
Oui, c'est plutôt à ce niveau-là. Enfin, les choses qui résonnent en extérieur avec ce que je fais, je ne veux pas en faire un discours, en fait, et je veux... Justement, interroger toutes ces... Je sais pas, c'est pas facile de dire en mots, quoi. parce que parfois...
Oui, toutes ces choses en filigrane qui sont à l'intérieur, toutes ces petites choses qui peuvent pas être dites, peut-être, qui peuvent peut-être juste être révélées par un corps ou...
Finalement, c'est peut-être rester dans un non-dit, conserver son non-dit et pouvoir le montrer, en fait. C'est peut-être ça.
En résidence à la galerie Windows, tu choisis la rue et tu y mesures le vide, le plan, avec ton corps enroulé dans une robe de 70 mètres. Tu te déroules et par là, tu le dénudes. Y voyais-tu une action aussi subversive? Peux-tu nous parler de cette performance et comment elle a été reçue?
Alors, en fait, il y a eu peut-être, comme j'étais en résidence, il y a eu deux performances qui étaient un peu, finalement, sur le même principe. Et la première était dans la galerie. Et je proposais... j'étais habillée dans une robe de scotch, dont la partie autocollante était extérieure. Je descendais, il y avait un escalier dans l'espace de la galerie, donc je descendais et je commençais à me dérouler ma robe. Et au fur et à mesure, en fait, comme finalement un striptease, le long des murs, je déroulais en fait ma...
À l'extérieur ou à l'intérieur?
À l'intérieur.
À l'intérieur.
Et finalement, c'était... Enfin, la robe, en termes de métrage, c'était la même longueur que le contour de la galerie.
Le périmètre de la galerie, oui. Oui.
Et au fur et à mesure que je déroulais, je me dénudais. Et c'était une manière aussi de révéler l'espace, en fait. Parce que la trace de ma robe venait se coller sur la paroi et venait marquer comme le fil bleu... Là, c'était du rouge qui marque un niveau de l'espace, quoi. Ça donnait une échelle, on va dire. C'est peut-être encore là un lien avec l'architecture. Et... En tout cas, c'est ce travail avec l'espace, le corps et l'espace.
Et donc, toujours dans cette résidence, il y a la deuxième...
Il y a la deuxième performance qui était...
C'était Femme et Talons, c'est ça, non?
C'est Femme et Talons. Là, en fait, c'était une rue piétonne. Et, j'ai proposé...
C'est une impasse, non, il me semble.
Un passe oublié, oui. Ouais. Et je proposais de tracer la ligne blanche de séparation infranchissable dans le code de la route. Et là, je me déroulais à terre. Je déroulais ma robe à terre. Aidée d'une complice. Et j'ai tracé tout les 70 mètres de l'impasse, non sans mal, puisque ma robe s'est enrayée. Et je me suis retrouvée... À un moment donné, je me suis arrêtée parce que je ne pouvais plus le dérouler au niveau du buste.
J'étais dénudée. Ouais, ah, voilà. Oui. La galerie, elle est dans un endroit qui est un tout petit peu... C'est un quartier un peu...
Dans le 10e arrondissement, à Château d'Eau. Et donc, c'est un quartier où il y a beaucoup de coiffeurs africains. Bah, c'est assez mixte aussi.
Non, parce que je pensais à la démarcation, à cette ligne blanche. Je me suis dit, est-ce que tu voulais marquer d'une manière l'espace ou la distance ou la proximité, je ne sais pas, de...
Oui, en tout cas...
Il y avait quelque chose de cet ordre-là
de
aussi.
De cet ordre-là. Ouais. Oui, je pense, en fait. Et qu'il y a peut-être aussi des liens qui ne sont pas évidents, en fait, entre les populations, en fait. Et je pense que ça a été pas très bien reçu.
T'as eu des spectateurs spontanés, dire, oui.
Oui. Et ça a été assez, je crois que ça a été assez violent. Moi-même, j'ai pas, en fait, comme j'étais complètement dans l'action, J'étais concentrée là-dessus. Je me rendais pas compte de ce qui était extérieur, mais c'était très violent de manière. Les gens.
Tu veux dire verbalement?
Ouais, verbalement, me traitaient de pute, de salope. Bon, mais en même temps, il est vrai, mais je crois. Enfin, il est vrai que c'est. Si on regarde, c'est une femme à terre qui est nue, quoi. Donc, il y a quelque chose peut-être qui est un peu. Qui est choquant, mais je ne l'ai pas fait pour ça, mais faut, enfin, dans le sens où c'était pas revendicatif, mais peut-être. Bon.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Ce qui t'intéresse, c'est l'individu dans sa transformation, les matériaux aussi. Dans leur transformation, tu choisis souvent des matériaux qui peuvent passer par plusieurs états. Le sucre, l'argile. C'est le mouvement, le transitoire qui te semble plus révélateur. C'est un indice plus fiable pour analyser.
Disons que c'est le mouvement, en fait. C'est tout ce qui est contenu, en fait, c'est pas... Même les pierres s'érodent. Et donc, c'est peut-être ça qui m'intéresse, en fait, c'est les mouvements, la vie, enfin
le temps.
Le temps. Je pense que le temps nous permet de réaliser des choses, de faire des réalisations soi-même. Et le fait d'introduire le temps permet de pouvoir agir, en fait. D'ailleurs, enfin, c'est...
Et un matériau qui peut passer par plusieurs états, comme tu fais des performances et qu'elles ne sont pas très longues, d'habitude aussi, ça permet de voir. Enfin, le temps, il est visible, tu veux dire.
C'est vrai que c'est court, toujours. c'est peut-être...
Si tu mets du papier toilette dans l'eau, on voit. Ouais. Ça, elle disparaît, on le voit tout de suite. Si tu choisirais une pierre qui s'érode... C'est moins visible, avant que tu fasses une vidéo, oui.
Oui, alors après, il y a cet aspect qu'effectivement, c'est directement visible. Si on veut parler de la plastique, en fait, de l'effet apporté. Mais aussi, c'est des objets du quotidien, en fait, qui nous rappellent des choses chacun, en fait. Je pense que c'est aussi un élément dans l'histoire de chacun. C'est quelque chose qui me rapproche des autres.
Oui, le quotidien, il est commun, d'une manière.
Voilà,
oui.
C'est ça. C'est parler de quelque chose qui pourrait nous être commun.
À un moment donné, la nécessité des mots se fait ressentir. Et donc, en 2017, Jimmy Anjour Apuru a écrit un texte à partir de tes éléments. Et c'était ta première performance parlée. Tu as fait une présentation dans une galerie dans le 10e, je crois, ou... Oui. Tu pourrais la lire pour nous. Elle s'appelait « C'est bien la première fois ».
Je suis la fille la plus drôle que je connaisse. Vraiment. Ça a commencé très tôt. Quand je suis née... Mes parents m'ont regardé et ils ont rigolé. Je devais avoir une bonne tête ou un truc comme ça. Alors ça fait que, dès le départ, je sais ça, que je suis drôle. La première fois que j'ai eu l'idée de faire un spectacle sur les premières fois, ben, c'est la première fois que j'en avais l'idée. Ça fait que je me suis dit, alors, on va le faire, puisqu'il n'y a jamais de deuxième fois. Et si c'est une deuxième fois, eh bien, c'est la première fois quand même que c'est une deuxième fois. Non ? Ah oui, je sens un petit flottement, le public est sceptique. On se dit, oh là là, ça doit fumer dedans, sous le crâne, ou turbine des idées compliquées. Mais pas du tout, pas du tout. Seulement, ce n'est pas simple de se dire tout d'un coup... Parlons des premières fois. Et puis, c'est pas simple, tout à coup, d'être là, devant vous. Et puis, seul sur scène. Moi, qui n'ai jamais rien réussi à faire seul, pas même finir une phrase que je venais de commencer. Moi, qui à chaque phrase, les gens ont envie de partir. Tellement c'est éprouvant de m'écouter, essayer de parler. Me v'là seule sur scène, sans souffleur pour m'aider, par une légère brise qui me caresse l'échine. Ce petit son du trac comme un saut dans le vide. Les idées viennent bizarrement. Vous savez, tenez par exemple. La première fois que l'idée m'est venue de faire un spectacle drôle, c'était un soir de glissade. Oui, j'avais glissé sur les marches du bassin d'eau glacée de la pièce la plus chaude du hammam de la mosquée de Paris. Qu'est-ce que je foutais là ? Ça, c'est une autre histoire. Restons groupés. Et sachez que j'avais cassé, en tombant, un des 4 bracelets représentant les dizaines de mon âge. 40 ans. J'avais eu pour ça, pour mon anniversaire, que je fêtais pour la première fois depuis longtemps. C'est marrant, non ? première fois, première fête d'anniversaire. Bon, laissons tomber. Il se trouve qu'après la chute, ben, j'avais plus que 30 ans. Et puis, un bras cassé, et je crois que ma tête aussi, elle a cogné quelque part. Et à un moment donné, j'ai entendu quelque part dans ma tête. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ça fait bizarre d'entendre ça, surtout l'affaire du Christ. C'est comme si Dieu en personne était venu me parler à moi, et même pas pour me dire, eh bien, que j'étais enceinte et que je portais en moi un sauveur dernier cri. Non, il est venu me parler pour me dire de me réveiller. Réveillez-vous, madame, ça va ? J'ouvre les yeux. C'était la dame du hammam qui me portait secours. Elle rabattait les dernières femmes vers la pièce de repos. Oui, on s'y allonge après le décrassage. J'aime bien aller au hammam, seule ou avec moi-même. Faut dire que c'est le seul endroit où Dieu m'a parlé en personne pour me dire de me réveiller, de me mettre enfin au boulot pour écrire un spectacle sur les premières fois. Je me rappelle, j'avais 3 ans. Je me souviens très bien. Je m'étais levée dans la classe comme ça pour dire que c'était moi qui devais faire Bambi et pas l'autre qu'on avait choisi. D'un point de vue technique, il n'y avait aucune raison pour que je ne sois pas Bambi. Je le portais en moi, Bambi. Vous comprenez ? Donc, il n'était pas question que le rôle m'échappe, que quelqu'un d'autre monte sur scène à ma place pour faire Bambi. Et ça, je lui ai dit à la maîtresse et aux autres. Et puis, faites-moi confiance que ça s'est vu. Ma détermination, je portais le drame en moi, le drame de Bambi. Il fallait que ça se voie. Après cette affaire de Bambi, j'ai plus rien fait du tout. Je suis morte avec ma mère, enfin la mère de Bambi, transpercée d'une seule flèche. Et puis un jour, comme ça, à bout de ne pas pouvoir dire ce que je voulais dire, je suis remontée sur scène. J'avais 17 ans. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était pour me délier la langue, pouvoir enfin parler, dire des trucs, faire sortir un fond assez bavard et qui, ma foi, comme ça, ben, voulait pas sortir. Ça fait quand forcément, je voyais plus très clair quand je regardais là, le monde qui était autour de moi. Ça se passait à Annemasse. Cette affaire de théâtre à la MJC. J'en ai eu marre un beau jour de taper dans les murs, alors je me suis dit que j'allais tenter les planches, faire un kiff, comme ça, d'interpréter des trucs devant un public venu pour m'écouter. J'ai bien demandé cette fois. Je leur ai pas refait le coup de Bambi. J'ai pris ce qu'on me donnait et c'était pas grand chose. Mais comme dirait Tati Josiane, tout commence petit. J'avais un rôle décisif, mais avec 2 répliques. Et quand il est venu le moment de lâcher ces 2 fameuses répliques, je balisais tellement que je les ai mélangées et puis dit l'une pour l'autre et ça fait que ma jeune carrière naissante, ben, s'est arrêtée là. Plutôt net et brutal. On m'a bien fait comprendre dans toute la MJC que c'était plus la peine que je revienne par là. Fallait trouver autre chose.
Merci Natasha. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier entretien. Dans le deuxième, nous allons continuer de parler de l'apparition du texte dans tes performances et de la disparition de la nudité comme élément. De la part d'érotisme peut-être qui semble lié, de tes résistances intimes, du rapport au langage des auteurs avec lesquels tu chemines, de tes projets futurs. Et évidemment des formes utiles et de la responsabilité. Merci Natasha.
Merci Fabiola.